en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Monsieur le Président. Vous ne m'avez pas rendu service en me proposant ce sujet. En effet, l'opinion publique fait partie de ces notions dont on estime qu'elles vont de soi et qu'on les connaît. Et puis lorsqu'on y regarde de plus près et qu'on essaie de les définir avec précision, ça s'évanouit. Enfin, on ne voit plus du tout de quoi il s'agit. Et on aurait besoin, me semble-t-il, d'un Socrate pour essayer d'y voir un peu plus clair. Moi, je ne suis pas Socrate. Malgré tout, pour essayer d'y voir un peu plus clair, il est généralement recommandé de partir de l'analyse des mots, parce que les mots ont un contenu en savoir qui peut être utile. Alors, le plus simple, c'est le mot « opinion ». Il vient du latin « opinari », dont l'étymologie est inconnue, ce qui est curieux d'ailleurs, qui veut dire « conjecture »,« être d'avis de ». Ça traduit le verbe grec « doxatzein », qui lui avait un sens plus technique dans la philosophie grecque, de la « doxa », qui était opposé à aletheia, la vérité, épistémé, la science, gnosis, le savoir rationnel. Donc, en première approximation, une opinion est une cognition, sinon douteuse, mais qui a été émise et ou reçue, si vous voulez, en l'absence d'un contrôle sévère et d'une vérification solide. Public est beaucoup plus délicat à saisir. En effet, il y a une ambiguïté originelle entre deux usages du mot, en français en tout cas. D'un côté, le public comme l'ensemble des récepteurs d'un émetteur, les lecteurs d'un journal, par exemple, forment un public, si vous voulez. Et d'autre part, dans un sens totalement différent, comme l'espace sur lequel le bien commun est débattu et géré. Dans ce deuxième sens, public s'oppose ou devrait s'opposer d'une part à privé et d'autre part à intime. Malheureusement, cette distinction entre le privé et l'intime n'est guère reçue. Je pense qu'elle est en train d'émerger seulement. Alors que chez les Grecs, elle était déjà précisée, to oikeion, c'est l'intime, si bien qu'il y a une tendance dans l'usage à confondre privé et intime, opposé à public, ou bien au contraire à rabattre, si vous voulez, l'intime sur le privé, si bien qu'on ne sait plus toujours très bien de quoi l'on parle. La conclusion provisoire, c'est qu'on a affaire à un espace sémantique à trois dimensions, à savoir les opinions. L'opinion publique concerne des cognitions qui d'abord sont d'un statut douteux en termes de vérité. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, mais enfin, bon, on peut se poser des questions. Deuxièmement, elles sont transmises à des récepteurs depuis des émetteurs. Et troisièmement, elle porte sur des sujets d'intérêt partagés par les récepteurs et les émetteurs. Alors je me propose, et donc je vous propose, l'esquisse d'une enquête sur les trois dimensions, étant entendu que l'opinion publique figure sur les trois simultanément, mais l'analyse est bien obligée de décomposer cet espace. Et donc j'examinerai successivement opinion et savoir, ensuite émetteur et récepteur, et enfin c'est de loin le plus délicat, le plus difficile, et puis je pense que je n'ai pas très bien compris, mais enfin bon, vous m'aiderez peut-être, public, privé et intime. Alors commençons par ce qui est tout de même relativement simple, opinion et savoir. Alors la distinction classique en philosophie, dès la Grèce, si vous voulez, entre opinion et science. Donc D'un côté, on a l'opinion, et d'autre part, d'autre côté, la science. Malheureusement, la science grecque a l'inconvénient de n'avoir jamais existé, pas plus que la science chinoise ou arabe ou autre. La science est une émergence tout à fait étonnante du début du XVIIe siècle. Et par conséquent, on ne peut pas opposer opinion à science. Il faut opposer, me semble-t-il, opinion à rationalité. Or, il y a plusieurs rationalités qu'il convient de distinguer. Personnellement, j'en distingue quatre. Une rationalité empirique, qui procède par observation, classification, induction et inférence. Ensuite, une rationalité scientifique qui procède par hypothèse, par déduction et prédiction, par vérification et qui aboutit à des explications. Une troisième que j'appellerais, ou que j'appelle, rationalité métaphysique qui procède par des conceptualisations sous le contrôle de la logique. Et quatrièmement, je pense qu'il faut introduire la rationalité exégétique, c'est-à-dire l'explicitation rationnelle d'une donnée révélée, qui doit être ainsi formulée qu'elle n'entre en contradiction ni avec la rationalité empirique, ni scientifique, ni métaphysique. Alors, l'invention de la vérité par la rationalité peut se faire par deux voies, tout à fait très exceptionnellement, par un point d'origine. Quelqu'un a une intuition qu'il développe, enfin, en savoir rationnel, qui est repris et puis développé par des communautés de pairs, si vous voulez. Alors bon, ça concerne une infime proportion de l'humanité à toutes les époques. Et deuxième voie qui nous est plus facilement ouverte et que nous avons l'habitude de parcourir, en faisant appel à ces lumières naturelles sous le contrôle des pairs compétents. C'est-à-dire, c'est en parcourant le chemin qu'ont parcouru ceux qui ont fait les premières découvertes que l'on se hisse, si vous voulez, à un savoir rationnel. Alors, si l'opinion est, comme je l'ai posé en hypothèse, le contradictoire de la rationalité, elle peut être le résultat de plusieurs attitudes plus ou moins fautives. La pire, pécamineuse, péché mortel, consiste à se confier à ces lumières naturelles en ignorant les procédures rationnelles ainsi que l'état des lieux atteint provisoirement par les compétents. Cela ne peut aboutir qu'à la production de ce que j'appellerais des coxigrues. Bon, les coxigrues, bon. Beau, joli mot, je trouve. Bon. Moins pire est une attitude qui consiste à recevoir des compétents, des vérités qu'ils prétendent avoir établies, sans faire l'effort d'un appel aux lumières naturelles. J'appellerai ces cognitions des préjugés. J'admets, je dois le confesser, que la Terre tourne autour du Soleil, mais je n'ai jamais vérifié. Si on fait le décompte de ce genre de préjugés, eh bien, c'est encyclopédique. Enfin, en gros, tout ce que nous avons dans notre tête est composé de préjugés quand tout va bien. Et troisième possibilité, honorable et inévitable, qui consiste à défendre des positions différentes au long de l'exploration rationnelle de la vérité. Ici, on a affaire à des arguments. Donc, il y a des opinions coxigrues, des opinions préjugées et des opinions arguments. Alors, il en résulte qu'une opinion n'est pas inévitablement fausse, car des fadas peuvent tomber justes. Ce n'est pas tout à fait impossible, mais bon. Les préjugés peuvent être justes, et puis en gros, si les communautés de pairs enfin, confirment, il n'y a pas de raison de douter que la Terre, aujourd'hui, que la Terre tourne autour du Soleil. Et certains arguments se révéleront demain ou après-demain justes. Donc, une opinion est douteuse, si vous voulez, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit fausse. Bon. Alors, comme les opinions peuvent être vraies ou fausses, eh bien, il devient possible de les départager en recourant à la rationalité. Donc, les opinions sont des objets de la matière historique, si vous voulez, qu'il est possible de soumettre à des procédures rationnelles pour les peser et, je répète, faire le partage entre celles qui tiennent la route et celles dont il faut se débarrasser. Alors, si je prends appui sur tout ce que je viens de dire et qui est très simple, eh bien, je crois qu'il est possible de se faire une idée assez précise de la situation de l'humanité aux trois stades fondamentaux de son histoire, au stade primitif, au stade traditionnel et au stade moderne. Parce que je pense que l'opinion publique est une notion à validité universelle et non pas un produit culturel particulier propre à une certaine civilisation à un certain moment de son développement. Par exemple, au stade primitif, disons paléolithique, si vous voulez, jusqu'aux alentours de 3000 avant notre ère, eh bien, il n'y a pas de science, il n'y a pas de métaphysique, il n'y a pas d'exégèse, du moins explicité. Alors, si quelqu'un soulève les questions que prendront en charge ensuite ces trois rationalités, eh bien, il n'a guère qu'un recours, à savoir faire appel à des mythes, les produire ou les ressortir. Et je pense que c'est le point d'origine et le point d'Archimède, en même temps, de l'étude des mythes, c'est-à-dire de la mythologie. Par contre, la rationalité empirique est indispensable à la survie, d'une part. Et d'autre part, règne dans les sociétés primitives ce que les sociologues appellent l'indifférenciation des rôles. C'est-à-dire que chaque acteur historique tend à adopter tous les rôles en fonction du calendrier, des heures, et ainsi de suite. Il n'y a guère que le rôle père et mère qu'il soit impossible de confondre. La conséquence est remarquable de ces deux contraintes, si vous voulez, à savoir que tout le monde est équipé de vérités empiriques, solides et confirmées. Autrement dit, c'est un monde où il y a le moins de préjugés de toutes les sociétés humaines. Je pense qu'il devient urgent de réviser fondamentalement la perception qu'on peut avoir du monde primitif. J'aurai l'occasion encore d'y faire d'autres allusions. La vision qu'on en a est entièrement pervertie par l'évolutionnisme du XIXe siècle qui a rangé les sociétés humaines et les civilisations sur une courbe, pas une courbe, une droite ascendante. Alors évidemment, ceux qui sont tout en bas de la courbe, ils sont à peine humains, quoi. Enfin bon. Dans le monde traditionnel, c'est-à-dire aux alentours de 3000 avant notre ère jusqu'à l'émergence de la modernité, voilà. La rationalité empirique est toujours indispensable, mais il y a une esquisse de différenciation des rôles. Et par conséquent, il y a des gens qui sont habités par des préjugés, ils ont des opinions sur des matières qu'ils ne maîtrisent pas. Par exemple, les fonctionnaires parlant d'agriculture. Ils n'ont généralement jamais travaillé la terre. Ils risquent de dire, sinon des sottises, du moins d'accumuler un savoir de seconde main. La rationalité métaphysique et exégétique est explorée par certains réunis en communauté de pairs. C'est une ouverture pour des arguments entre spécialistes, bien entendu, ça ne concerne et n'intéresse qu'une infime minorité. L'idée qu'au Moyen-Âge, le soir à la veillée, les gens commentaient saint Thomas d'Aquin est une idée, enfin, qu'il faut absolument abandonner. Enfin, bon. Des préjugés, évidemment, étaient surabondants. Des coqcigrues, alors, commencent à apparaître et à se multiplier. Il y a des fadas, il y a des imbéciles, mais dans le monde primitif, il y avait des fadas et des imbéciles aussi. C'est génétique, si vous voulez, mais ils étaient disqualifiés. Là encore, c'est une autre illusion sur le monde primitif qui a été dénoncée par un ethnologue américain, Paul Radin, qui montrait d'une manière définitive que la liberté d'opinion était totale dans le monde primitif, lui, le monde indien, mais c'est généralisable. Mais si quelqu'un venait avec une opinion complètement farfelue, ben, les autres rigolaient et puis ne l'écoutaient pas. Il n'y avait aucune censure, si on pouvait vraiment penser et exprimer tout ce que l'on voulait. Avec le monde moderne, c'est-à-dire en Europe à partir des 14e et 15e siècles, la science apparaît, la spécialisation des rôles se fait. La science apparaît, très rapidement elle se spécialise, et on passe donc de la science aux sciences, à les sciences, si vous voulez. Les scientifiques ont une tendance fâcheuse à disqualifier les rationalités métaphysiques et exégétiques, en considérant que ce sont de rien. Autrement dit, les scientifiques se peuplent de préjugés, ce qui est fâcheux pour tout le monde, jusqu'à nos jours inclusivement. Et, plus grave peut-être de tout, et qui commence seulement à apparaître dans la réalité, l'attracteur de la recherche scientifique. C'est la spécialisation. Et l'attracteur de la spécialisation consiste à finir par tout savoir sur rien. Autrement dit, il y a un paradoxe et une contradiction dans le mouvement historique, si vous voulez, de la science et des sciences. Conséquence, même les plus compétents sur un point très particulier, je me rappelle une fois à l'occasion d'un dîner de l'Institut, organisé par Monsieur le Chancelier, d'avoir été assis à côté d'un spécialiste des sciences qui savait tout sur le soufre et donnait le sentiment de ne pas savoir grand-chose sur plein d'autres choses. Mais sur le soufre, il savait tout. Or, ça pose un problème réel de nos jours, enfin pour la recherche scientifique. Du côté des fonctions ou des rôles, la spécialisation est devenue extrême. Et par conséquent, le savoir empirique, le cordonnier qui maîtrise la cordonnerie, si vous voulez, le boulanger, la boulangerie, ainsi de suite, eh bien, ce savoir empirique vérifié, solide, est de plus en plus étroit aussi. Et surtout le reste, les acteurs sociaux sont peuplés de préjugés ou bien sont susceptibles de croire n'importe quoi, donc ce que j'ai appelé des coxigrues. Et enfin, pour couronner le tout, et pour des raisons qui ne sont pas quelconques, la modernité est également caractérisée par la démocratisation. Dans le concept de démocratie, plus exactement dans le concept de citoyen, figurent toutes les libertés que nous connaissons, dont la liberté d'opinion et surtout d'expression. La confusion est presque inévitable, si on n'y prend pas garde, entre la liberté politique d'opinion et d'expression. Personne ne peut imposer ou interdire à quelqu'un de penser ceci ou de ne pas penser cela, avec la licence de penser n'importe quoi. Je ne suis pas libre de penser que 2 plus 2 égale 5. Je peux le dire politiquement, si la fantaisie m'en prend, mais c'est faux. Et donc, je ne suis pas libre de dénoncer et de propager des erreurs. Mais si on n'y prend pas garde, eh bien, on arrive à la conclusion que tout n'est qu'opinion. Et que chacun a son opinion et peut avoir son opinion, et que par conséquent, il n'y a plus de vérité. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, monsieur le Président. La rationalité disparaît, et donc triomphent les coxigrues. Bon. Voyons le deuxième point, émetteur et récepteur. Donc là, je change de registre. C'est la deuxième dimension. Si vous voulez. Donc, je prends ici public au sens de lectorat d'un journal ou d'un auteur ou d'un intellectuel à la mode, ou pas à la mode d'ailleurs, peu importe, les auditeurs d'une émission ou bien ceux qui regardent la télévision, le spectateur, ça ne va pas bien, enfin, si vous voulez, mais lorsqu'ils sont transmis, si vous voulez, des informations. Le point commun à tous ces publics, si vous voulez, et d'être des récepteurs dispersés, chacun uni bilatéralement à un émetteur. Alors évidemment, on peut être uni à plusieurs émetteurs, mais à chaque fois, on l'est bilatéralement. Autrement dit, un public n'est pas un auditoire. Dans une salle de classe, en fait, un auditoire, ce n'est pas un public. Ça ne se confond pas avec une foule, ni avec un groupe. Autrement dit, les sociologues ont introduit des distinctions absolument indispensables, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient à la mode. Alors, chacun étant branché sur le même récepteur, ils reçoivent le même message. Mais chacun reçoit le message en l'interprétant à sa manière, parce que les récepteurs ne sont pas passifs, ils sont au contraire actifs, mais plus ou moins actifs. Et donc le résultat, si vous voulez, de cette communication, si vous voulez, c'est tout le problème de la communication, et qu'on ne sait pas ce que vont devenir les informations qui partent d'un émetteur et qui sont reçues ailleurs. Alors, pour bâtir une problématique générale des émetteurs et des récepteurs, je crois qu'on peut prendre appui sur la variabilité des émetteurs d'un côté et des récepteurs de l'autre. Alors, du côté des émetteurs, je vois deux points de variation possibles. D'abord, le nombre. Il peut y avoir un seul émetteur dans un ensemble, appelons-le social, si vous voulez. Donc, il y a un émetteur et un nombre indéfini de récepteurs. Il y a donc un monopole des opinions. À quoi peut s'opposer la situation où tous les récepteurs sont en même temps des émetteurs. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. Alors, d'un côté, il y a un monopole, et de l'autre, il y a une dispersion totale. Chacun, du moins, cherche à être un émetteur. Deuxième point de variation, la qualité cognitive des émetteurs. Alors, il y a plusieurs possibilités qui ne sont pas, séparées par des barrières et des murs étanches. On peut avoir affaire à des experts compétents, des mathématiciens qui parlent de mathématiques, si vous voulez. Pas quand ils parlent de sociologie. Alors là, il vaut mieux éviter. Alors, qu'est-ce que des experts compétents ? Ce ne sont pas ceux qui détiennent la vérité, ce sont ceux qui sont au fait de l'état des questions à un moment donné, dans un domaine donné. Et donc, il est tout à fait possible que les experts compétents se trompent tous. Les exemples sont innombrables. Vous voyez d'ici les conséquences que l'on peut en tirer. Les prétendus experts ne sont pas experts puisqu'ils ne savent pas. Où ils se trompent. Donc, il n'y a aucune raison que je n'en sache pas autant qu'eux. Il n'y a que des opinions. Ce n'est pas facile à réfuter comme argument. Deuxième catégorie ou classe d'émetteurs, ce sont toutes les nuances de l'ouï-dire et du seconde main. C'est-à-dire ceux qui se mettent au courant de ce que les experts compétents ont mis au point et qui essayent de le diffuser au-delà. Je crois qu'il est utile de distinguer entre deux cercles, si vous voulez, ou deux marchés, entre les divulgateurs et les vulgarisateurs. Les divulgateurs essayent d'exprimer des vérités mises au point par des experts dans un langage qui soit accessible à un public plus large que celui des experts. Alors que les vulgarisateurs essayent de transcrire, si vous voulez, ces mêmes savoirs, si vous voulez, au bénéfice des esprits les moins susceptibles d'y adhérer avec des lumières naturelles suffisantes pour faire le tri entre ce qui tient la route et ce qui ne tient pas. Troisième classe, les idéologues, évidemment. Quatrième classe, les illuminés ou les allumés, comme on dit de nos jours. Et enfin, tout de même, il ne faut pas oublier les habiles. c'est-à-dire ceux qui cherchent à incliner les récepteurs dans un sens, dans le sens de leurs intérêts, quels qu'ils soient. Bon. Donc là, vous avez une dérivation sur la publicité, si vous voulez, ou sur la propagande, enfin, bien entendu. Alors, du côté des récepteurs, je vois 4 points de variation fondamentaux. Le corps des récepteurs peut être homogène ou parfaitement hétérogène. Il peut aussi être soit isotrope, dans tous les sens, eh bien, les échos sont les mêmes, ou parfaitement anisotrope. Donc, soit un espace commun, soit au contraire des espaces segmentés et refermés les uns sur les autres. Troisième point de variation, le traitement différentiel des messages, par exemple en fonction de l'instruction ou de la position sociale. Bon. Et enfin, je retiendrai également la disposition à être récepteur, parce qu'il y a une hygiène de la réception, si vous voulez, qui est plus ou moins pratiquée par les différents individus. Alors, si je combine ces deux, les points de variation des récepteurs et les points de variation des émetteurs, eh bien, je peux construire a priori deux situations polaires et poser en hypothèse que l'opinion dans une société se trouve sur un point du continuum qui relie ces deux pôles. Et donc, toute société peut entrer dans ce schéma. Alors, quels sont les deux pôles? Eh bien, c'est facile à énoncer. À un pôle, on a un monopole, sinon des experts compétents, du moins des divulgateurs s'adressant à un public homogène, isotrope, indifférencié, en capacité cognitive et réceptif. Inversement, au pôle opposé, eh bien, tout le monde, à la fois récepteur, émetteur, incompétent, irrationnel et à la merci des habiles. Alors, comme toujours, il faut prendre ces pôles comme des types idéaux, enfin, et c'est le continuum qui est intéressant entre les deux. Et alors, on peut en tirer des prédictions. Par exemple, dans les sociétés traditionnelles, donc des sociétés qui sont passées à la production, à la coalescence politique, à la guerre, à la différenciation des organes politiques et à la hiérocratisation du pouvoir, enfin pour simplifier, des monarchies, si vous voulez, ou des empires. Eh bien, les sociétés traditionnelles devraient être poussées vers le pôle 1 pour des raisons politiques, idéologiques et religieuses. Religieuses non pas par elles-mêmes, mais par le fait que les religions servent d'idéologie pour justifier le pouvoir politique tendant à l'absolu. Et donc, on a ces sociétés traditionnelles, enfin, où effectivement, l'opinion publique est dans la main du pouvoir, si vous voulez, des autorités politiques et des autorités religieuses, et des scribes également, des intellectuels, si vous voulez. Dans les sociétés primitives, il n'y a pas de monopole. Elles sont sensibles aux compétents pour des raisons de survie. Par exemple, si une chasse est organisée, eh bien on suit les avis du meilleur chasseur et tout le monde sait qui est le meilleur chasseur. Et il n'y a pas de discussion. Enfin, il n'y a pas moyen d'ailleurs de tricher. Ce sont des sociétés qui sont également homogènes, isotropes, mais qui reçoivent spontanément les informations qui peuvent venir des émetteurs. Donc, probablement un esprit critique assez limité. Donc, je dirais que ces sociétés primitives sont plutôt orientées vers le centre du continuum, en résistant, si vous voulez, à la tendance à s'orienter vers le pôle du monopole, si vous voulez. Ce sont des sociétés, et là, un ethnologue et ethnographe français, dont bien entendu le nom va m'échapper, j'ai oublié de le noter, mais ça me reviendra tout à l'heure, la société contre l'État, qui allait trop loin. Clastres, Pierre Clastres, effectivement. Sa thèse était fausse parce qu'il allait trop loin, mais il y avait une idée juste. Ce sont des sociétés où la liberté, enfin, est une valeur fondamentale et où tout ce qui menace la liberté, alors c'est généralement pas de l'individu, mais du lignage, si vous voulez, doit être combattu. Dans le monde moderne, que peut-on prédire ? Eh bien, on peut prédire, je crois, et constater, parce que c'est déjà révolu, deux phases successives jusqu'ici, jusqu'aux années 1960, et c'est peut-être un moyen de rejoindre les vœux de la présidence, si vous voulez. Eh bien, on a des, non pas des monopoles, on a des oligopoles. On est guidé par des divulgateurs, par des gens qui peuvent être, qui sont généralement non pas des experts, mais qui se sont renseignés auprès des experts sur ce qui est vrai et ce qui est faux, s'adressant à des élites réceptives et susceptibles d'avoir un jugement critique parce que ces élites sont passées par les bonnes écoles. D'autres, et enfin une certaine stabilité. Autrement dit, je verrai ces sociétés, ce sont nos sociétés européennes, enfin occidentales en général, jusque dans les années 60, sont plutôt orientées elles aussi vers le centre, mais parce qu'elles refusent d'aller vers le deuxième pôle de la, comment dire, de la chienlit, comme disait je ne sais plus qui, enfin. Et depuis les années 1960, aujourd'hui autrement dit, on a une progression marquée vers le pôle 2 du fait de la mondialisation et de la modernisation. Ce qui me conduit à mon troisième et dernier point, le plus délicat parce que le plus difficile à problématiser. Donc je vais aller non pas à l'essentiel, mais à un essentiel qui me permet de dire quelque chose. Donc je ne vais pas traiter systématiquement les impacts de la modernisation et de la mondialisation sur le public, le privé et l'intime. Donc en allant à l'essentiel, je poserai en hypothèse que l'opinion publique comme phénomène historique s'épanouit et devient clairement repérable, si vous voulez, quand trois conditions sont réunies. Premièrement, les opinions portent sur des questions d'intérêt commun, et donc sur le bien commun, et par conséquent, dans la scène politique, lorsque l'opinion publique s'intéresse aux politiques. Deuxième condition, lorsque toutes les opinions peuvent s'exprimer et être débattues. Autrement dit, le privé est capable de produire ses propres opinions. Il n'est pas dans la dépendance du public, qu'il soit un monopole ou un oligopole. Et enfin, troisièmement, si les opinions privées sur les questions publiques ne sont pas détournées sur des questions intéressant l'intime, par exemple la spiritualité, la félicité, la sexualité, enfin toute une série de questions tout à fait réelles et fondamentales, mais qui intéressent l'individu dans son intimité. Comme disait Ernest Renan, c'est dans l'intime, il ne parle pas d'intime, enfin ça voulait dire ça, chacun essaye d'écrire son propre roman du bonheur. C'est ça l'intime. Je pense que c'est en voie d'émergence et de problématisation. Alors, ces trois contributions sont à leur tour dans la dépendance des régimes politiques, qu'ils respectent ou non les trois sphères d'activité. Et par conséquent, on peut prédire que le phénomène opinion publique devrait s'effacer à mesure que les régimes inclinent davantage à l'autocratie, et en particulier dans les idéocraties, parler d'opinion publique en URSS ou dans la Chine de Mao ou l'Allemagne nazie, n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas d'opinion publique, il y a une propagande, si vous voulez, c'est une propagande plus ou moins efficace, mais il ne peut pas y avoir d'opinion publique au sens propre du terme. Inversement, le phénomène opinion publique devrait apparaître, se développer et devenir prégnant dans les régimes politiques traditionnels tempérés, les monarchies d'anciens régimes, et surtout, bien entendu, avec les régimes démocratiques. Paradoxalement, on devrait trouver confirmation de cette hypothèse, c'est-à-dire de la réalité de la prégnance de l'opinion publique dans les sociétés primitives. L'exemple le plus pédagogique d'opinion publique, c'est la palabre, où chacun des participants, en général les têtes de lignage ou les chefs de famille, enfin les mariés, enfin les hommes mariés, peuvent tous exprimer leurs opinions privées, en public, jusqu'à ce qu'émerge une unanimité, parce que les minorités ont un pouvoir de blocage. Il y a une liberté totale d'opinion et il y a une opinion publique. Et une opinion publique, on me dirait, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Comme me disait un chef Mossi, bien entendu, les femmes n'ont pas le droit à la parole pendant la palabre, mais quand on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on prend? Autrement dit, les femmes participent. Alors, dans les démocraties modernes, jusque dans les années 60, avec des impacts de plus en plus visibles et repérables de la mondialisation et de la modernisation, à partir des années 60, l'époque actuelle, enfin les 50 dernières années, on entre, je crois, dans une problématique complexe et délicate. Et je me contenterai de quelques allusions. Je pense que ça mériterait, enfin, moi, je suis trop vieux pour me lancer là-dedans, mais qu'une équipe de recherche, je ne dis pas à l'Académie non plus, mais enfin quelque part, s'intéresse de près à cette question parce qu'elle est d'actualité et elle devrait le rester. Prenons la mondialisation d'abord. Alors, je la définis, comme il va de soi, comme la confluence de toutes les histoires humaines en une histoire unique, dont l'humanité, en tant que telle, devient le sujet. Alors que jusqu'ici, il n'y avait que des humanités qui étaient sujets d'histoires particulières. Dans cette situation, un bien commun de l'humanité est à l'état virtuel. Et par conséquent, peut être et doit être un jour ou l'autre l'occasion de débats et donc d'opinion sur ce que devrait être ce bien commun de l'humanité. Mais il n'y a pas de politique planétaire, et par conséquent, il n'y a pas d'espace public planétaire sur lequel les opinions privées sur le bien commun pourraient s'exprimer. Ce sont les nations, si vous voulez, qui sont les porte-parole de ces opinions, et ce ne sont pas des opinions privées, c'est passé par toute une moulinette, si vous voulez, avant d'en venir sur la scène internationale. Ça devient caricatural en Europe, dans l'Union européenne, si vous voulez, ou du fait qu'il n'y a pas de politique européenne, il n'y a pas d'espace public européen. Mais il n'y a que des opinions nationales sur l'Europe. Il peut y avoir des opinions privées, si vous voulez, mais elles sont disqualifiées par le fait qu'elles n'ont aucun moyen de se faire jour au niveau européen. D'où le problème qui est réel, si vous voulez, d'un déficit démocratique. L'expression est très, très défectueuse. Ce n'est pas un déficit démocratique, c'est l'absence d'une politique, c'est-à-dire d'un espace public. C'est aussi bête que ça. Il suffit de relire Aristote. Entre une alliance aussi étroite que possible et une police, il y a un fossé que l'on ne peut pas franchir sans s'en rendre compte. Enfin, on est dans deux univers différents. Alors, dans ce cadre, des guides d'opinion peuvent apparaître, mais ont peu de chances d'être entendus parce qu'il est facile de les disqualifier. Alors, la modernisation m'intéresse beaucoup plus. C'est là que ça devient vraiment compliqué. Je définis la modernisation par 5 développements fondamentaux. La science, c'est pas par ordre hiérarchique, la science, l'individuation, la démocratie, ce que les sociologues appellent la différenciation des ordres, c'est-à-dire le fait que les diverses activités humaines et les différents domaines d'activités humaines tentent à devenir, à se concentrer sur leur finalité propre, et enfin le développement économique. Bon. Alors, la science, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mode du connaître applicable à tous les départements du réel. Donc, la science a mécaniquement donné naissance aux sciences. Et je pense que distinguer entre les sciences de la nature et les sciences du vivant et les sciences humaines est parfaitement justifié du fait des objets sur lesquels ils s'appliquent, mais pas du tout pour en tant que mode du connaître. Les démarches sont rigoureusement les mêmes dans tous les domaines. Alors, je l'ai dit aussi, le progrès du savoir scientifique s'effectue par spécialisation croissante. Et donc, un paradoxe apparaît, une prodigieuse multiplication des gens très savants et très compétents, mais sur des domaines extrêmement étroits. De plus en plus incompétents, hors de leur spécialité. Essayez de vous entretenir avec nos admirables confrères de l'Académie des sciences, il faut les interroger sur leur domaine d'expertise. Alors là, c'est éblouissant. Dès qu'ils s'en éloignent, on commence à grincer des dents. Enfin, c'est, bon. L'individuation. Donc, science plus individuation. Eh bien, il y a une tendance à faire de l'individu... Enfin, ça, c'est la définition technique de l'individuation. Tendance à faire de l'individu le porteur de toutes les activités humaines. Bon. Phénomène assez typiquement moderne, mais que l'on trouve très développé dans les sociétés les plus archaïques, contrairement, là encore, à une légende. La démocratie, enfin, pour compléter le brouet, si vous voulez, avec liberté d'opinion, qui évolue en liberté... Non, pas en liberté, mais tout n'est qu'opinion. Et donc, il n'y a que il n'y a plus d'experts, de rien. Les experts sont des défenseurs d'une opinion parmi d'autres. Regardez sur les problèmes nucléaires, les problèmes climatiques. Bon, il y a des climatologues, mais enfin bon ce sont des opinions parmi d'autres. Enfin, une confusion complète entre écologie et écologisme. Aller en parler là aussi aux confrères des sciences qui sont écologues, c'est eux qui grincent des dents à ce moment-là. Une confusion possible entre, et même je crois inévitable, entre l'individu sujet, c'est ça l'individuation, et l'individu comme objectif des activités de l'individu. C'est-à-dire l'individu ne se considère plus ou n'est plus considéré comme un médiateur et un catalyseur de quelque chose qui le dépasse, mais il devient, si vous voulez, la fin de ses propres activités et on verse dans ce que j'appellerais l'égocentrisme et un pire encore dans l'égolâtrie, dépourvu de finalité. Ce qui a pour conséquence inévitable le déboussolage et le nombrilisme, ou le nombrilisme et donc le déboussolage. Conséquence, et c'est là que je voulais en venir, mais c'est une hypothèse, on assiste à une invasion massive de l'opinion publique par l'intime. D'autant plus que les techniques de l'Internet, enfin, et des réseaux sociaux permettent à chacun, si vous voulez, de se mettre en ligne, de se mettre en spectacle. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a des choses tout à fait stupéfiantes pour des gens de notre âge, en tout cas, qui apparaissent. Et donc, on ne peut plus guère parler d'opinion publique à proprement parler, mais d'opinion, diffusée à tout va. Sans que plus rien ne soit accroché à quelque chose de solide. Alors, on peut, pour conclusion, quelques mots de conclusion, enfin, vous comprenez que ça ne pourrait être qu'un programme de recherche que vous avez exposé, on peut plaider, et je plaiderai, que l'humanité est en train de vivre, à l'heure actuelle, une mutation de loin plus radicale que celle qu'observait Tocqueville de son temps. Or, dans le deuxième tome de la démocratie en Amérique, c'est le tome qui compte, c'est pas le premier qui intéresse les Américains. Dans le deuxième tome, la saveur est pessimiste, que l'on peut expliquer par le fait que c'est un aristocrate qui réfléchit sur les conséquences que devrait avoir le fait que l'aristocratie ne bénéficie plus d'une sanction légale et idéologique. Si vous voulez, que ça, c'est l'égalité des conditions. On se trompe généralement sur l'hypothèse de base de Tocqueville. Alors, on peut, si on suit ce que j'ai dit, succomber à la même humeur déprimée, si vous voulez, au spectacle actuel du monde. Il est difficile d'y trouver des arguments exaltants, mais vaut mieux être prudent, mais il faut éviter absolument le catastrophisme. En effet, il repose toujours sur l'hypothèse toujours fausse que les choses iront en empirant et deviendront irrésistibles, ce qui postule implicitement qu'on ne fera rien pour essayer de corriger l'évolution. Ce n'est pas ce qu'enseigne l'histoire de l'humanité. Il y a toujours des correctifs et on finit toujours par retomber mal sur ses pieds, mais par retomber sur ses pieds. Et ça me fait penser à un vers de Hölderlin que j'aime beaucoup, pas tellement facile à traduire en français, mais Monsieur Charreau pourra m'aider. « Wo die Gefahr ist, dann wächst die Rettung auch. » Là où il y a danger, le salut se fait jour aussi. Merci.